Polynésie première.
Sous Polynésie première, 10h passées de 30 minutes. Et tout de suite, nous allons accueillir, bien sûr, dans votre émission Family Psy, notre psychologue de la famille. C'est bien sûr Nathalie Collin-Fagotin. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les lundis matin pour aborder des sujets différents. Épuisement maternel ou burn-out, comment faire face? Vous êtes épuisé, à bout, au bord de la crise de nerfs. Vous êtes peut-être en plein burn-out maternel. Depuis longtemps, on connaît et on parle de burn-out dans le milieu professionnel, mais depuis peu, ce terme est aussi utilisé pour définir un état d'épuisement observé chez les mères soumises à un stress important à la maison. Mal connu, ce trouble touche pourtant beaucoup de mères dans l'intimité de leur foyer familial. Mal compris par l'entourage, il peut être source de conflits et de crises dans les cellules familiales. Mais concrètement, Nathalie, qu'en est-il exactement et comment y faire face?
Alors, qu'est-ce que c'est le burn-out? C'est d'abord une souffrance, c'est important de le rappeler pour celle qui la vit. Et cette souffrance agit comme une spirale infernale, entraînant des effets de plus en plus nocifs. D'abord, on se sent fatigué, épuisé même, autant physiquement que moralement. Et puis on se sent blasé, saturé, cynique même, perdant toute motivation à faire ce qu'on fait habituellement. Et puis pour finir, on peut commencer par lâcher, perdre pied, fuir peut-être même la maison ou les enfants. Le burn-out, c'est un état d'épuisement tel qu'il en change nos réactions et nos sensations habituelles. Le burn-out est associé à un stress important, un surmenage, ou la combinaison de situations stressantes, fatigantes, qui demandent une forte implication émotionnelle. C'est ce que nous demandent les enfants quand on s'occupe d'eux. C'est une charge émotionnelle forte. Et l'accumulation de ce stress et la mauvaise gestion entraîne un état de saturation. Cet état modifie considérablement l'humeur et les réactions, donc, et les comportements de la personne. Dans la vie personnelle, le stress provient la plupart du temps de la sphère familiale. Les conflits à répétition, les fatigues, les rythmes, le rythme effréné du quotidien, on le sait pour les mamans, le rythme est très soutenu quand les enfants sont en jeune âge, et tout ça peut être source de stress, évidemment, qui peuvent mener tout droit au burn-out.
Le 7-1-2-3-71-23, c'est le buzz SMS de Polynésie Première pour vos réactions. Si vous êtes également témoin de ce burn-out maternel, on va dire ça comme ça, n'hésitez surtout pas à témoigner avec nous au 7-1-2-3-71-23, le buzz SMS de Polynésie Première. Comment reconnaît-on un burn-out?
Alors, premièrement, le burn-out se reconnaît au comportement inhabituel que l'on va remarquer chez la personne touchée, de l'énervement, des sautes d'humeur, une lassitude aussi, ou du découragement. Ce sont des signes qui peuvent faire penser au burn-out. Le burn-out se manifeste sur le plan physique, avec la fatigue par exemple, mais aussi sur le plan émotionnel, on peut se sentir découragé, démotivé, cognitif, une incapacité ou une difficulté à réfléchir, à prendre du recul avec les choses, ou comportemental, peut avoir des comportements un petit peu, par exemple, d'impatience ou un petit peu de brutalité inhabituelle également. Mais attention, tout de même, de ne pas conclure trop vite. Ces réactions peuvent survenir dans un temps ou dans une période de fatigue et ne pas durer. Ce qui doit alerter, c'est quand ces réactions sont cumulées et deviennent chroniques, s'installent dans le temps. Donc le burn-out, c'est un état excessif dont on sort rarement seul. Les comportements inhabituels, dès qu'ils apparaissent, doivent constituer comme des alertes, des alarmes finalement, pour prendre des mesures avant de foncer tout droit dans le mur. D'ailleurs, les premiers changements sont souvent remarqués d'abord par l'entourage, plus que par la personne elle-même. On voit toujours mieux, évidemment, ce qui se passe chez l'autre que ce qui se passe chez soi. Donc le conjoint ou un proche peut tenter d'en parler. Par contre, pour ça, c'est important de prendre des précautions, parce que la personne touchée par le burn-out est souvent susceptible. Elle va donc avoir du mal à entendre les remarques qui lui sont faites, qu'elle peut interpréter comme des reproches.
Comment peut-on éviter justement le burn-out?
Alors, ce qui est important pour l'éviter, c'est d'abord de s'écouter. Parce que, comme on l'a dit, le comportement inhabituel est le premier signe qui doit alerter la personne ou l'entourage. Donc, s'écouter, ça veut dire être suffisamment au clair avec la situation que l'on est en train de vivre. On peut remarquer d'abord que l'on va perdre le contrôle, changer d'attitude. Et ça, c'est important d'en prendre conscience et de le prendre en considération avant d'en arriver à la crise de nerfs. Deuxièmement, bien sûr, ce qui est important, c'est de se reposer. La fatigue est un des signes majeurs du burn-out, mais la fatigue physique, le manque de sommeil peut aggraver en fait la situation de burn-out. On sait que ce n'est pas facile pour un parent qui a un enfant en bas âge, voire deux ou trois, de se reposer. Il se réveille plusieurs fois la nuit, les besoins des enfants en bas âge sont importants, et puis en plus des mille choses à faire pendant la journée, c'est justement pour ça que c'est important de se reposer, de dormir quand bébé dort et peut-être même de faire une ou deux siestes dans la journée pour pouvoir se reposer et avoir un corps au moins physiquement reposé. Évidemment, ça c'est important aussi pour le repos, on va dire, psychique. Troisième conseil, ne restez pas seul. L'isolement va aggraver la situation. Dans la situation de burn-out, on a souvent un manque de soutien social. D'abord parce que la personne, un peu par cette spirale infernale, va s'isoler. Et puis on le sait, certaines mères du coup se retrouvent isolées de leur contexte social, par exemple, ou professionnel, qui va du coup être une circonstance aggravante à cette situation de burn-out. Alors au contraire, il faut se faire violence ou prendre, on va dire, faire l'effort d'aller parler, de s'ouvrir à d'autres, discuter avec une amie par exemple, ou rencontrer d'autres parents qui vivent la même situation. Ça aidera dans tous les cas à prendre du recul pour mieux s'en sortir, et c'est très important dans un premier temps. Autre point, mettez des priorités. Dans l'organisation d'une journée, quand on est encore maman d'un enfant en bas âge, on doit réorganiser sa journée. Par exemple, surfer des heures sur Internet, une activité que l'on pouvait faire avant d'avoir un enfant, peut passer au second plan. Et si vous ne l'avez pas encore fait, remettez des priorités dans les choses qui sont indispensables à faire dans la journée et celles qui ne le sont pas. On verra en faisant cette petite liste le nombre de petites choses que l'on fait et qui nous prennent un temps fou et qui allongent la liste des choses à faire dans la journée. Autre conseil, faites la chasse aux sources de distraction inutiles. La sur-sollicitation dans une journée est un des facteurs clés qui peut conduire au burn-out. Seulement, certaines sollicitations qui sont sources de distraction sont moins essentielles, on va dire plus secondaires. Donc, quand on éteint, par exemple, la télé, on supprime une source de distraction, même si on la met en bruit de fond. Il faut savoir que même si on n'écoute pas la télé vraiment, mais qu'elle est allumée et que l'on fait les choses dans la maison autour de cette télé, d'ailleurs, on se demande pourquoi l'allumer dans ce cas. En tout cas, quand on allume une télé en bruit de fond, notre cerveau enregistre des paroles, des sons, et attire notre attention d'une manière complètement involontaire. Donc c'est un exemple d'une source de distraction qui peut être supprimée, en tout cas qui peut être enlevée pour diminuer le nombre de sollicitations. Et dernier conseil, déléguer. Souvent une des difficultés des mamans qui s'occupent de leur bébé, c'est qu'elles ont parfois de la difficulté à déléguer, à demander au papa de s'occuper de choses dont elles ont l'habitude de gérer, qu'elles ont l'habitude de gérer toutes seules. Peut-être qu'elles auront du mal à laisser faire les tâches qu'elles font habituellement par quelqu'un d'autre, pour plein de raisons, parce que ce ne sera pas fait comme elles le veulent, par exemple. Mais si c'est le cas, il faut se dire que d'une part, c'est transitoire. Effectivement, la période autour de l'accouchement, après la naissance, est particulièrement intense en sollicitation. Elle demande vraiment de prendre des mesures particulières à cette transition, à cette période. Et dans certains cas, c'est presque une question de survie. On doit donner la priorité pour faire face, garder la tête de l'eau, hors de l'eau. Et pour ça, il n'y a pas 36 manières de le faire. Il faut commencer à lâcher du lest, à lâcher prise.
Alors, je suppose qu'il y a de l'accomplissement personnel chez la femme pendant l'accouchement et puis pendant la grossesse, justement. Mais après cette phase, est-ce que la femme, maman, a surtout besoin de s'entourer pour pouvoir garder bébé? Alors, pour éviter justement de tomber dans ce cas de burn-out.
Donc, par rapport aux sursollicitations, c'est un conseil supplémentaire effectivement qu'on pourrait donner, c'est que la jeune maman peut s'aider, peut s'entourer de personnes qui vont l'aider temporairement. Par exemple, on peut très bien imaginer que bébé soit confié à une nounou, une garderie, le temps d'une journée, hein, ou le temps de quelques jours, le temps de reprendre un petit peu, justement, de se reposer. Ça n'est pas... Ça peut être conseillé pour une maman qui va commencer à sentir un état de fatigue excessif et commencer à avoir un peu les premiers cycles de fatigue. Si elle n'a pas la possibilité de déléguer dans son entourage proche, on peut très bien voir ça comme une solution, une alternative pour passer un petit peu le cap et éviter de glisser doucement dans le burn-out. C'est quand même important de rappeler que ça ne concerne pas toutes les mères. C'est un état excessif qui, heureusement, reste quand même assez... concerne une minorité de mamans, mais quand même, l'état de fatigue et d'épuisement est décrit par beaucoup de jeunes mamans qui s'occupent seules de leur enfant à la maison.
Nathalie Collin-Fagotin, psychologue de la famille, votre émission Famille Psy au 71 23. Réagissez donc et posez vos questions. 71 23, le buzz SMS de Polynésie première. Est-ce qu'il faut essentiellement s'entourer de sa famille lorsqu'il faut garder bébé ou lorsque justement on arrive à un point où on a envie de déléguer, on en parlait il y a quelques instants, on a envie de déléguer bébé à une autre personne, est-ce qu'il faut essentiellement s'entourer de sa famille ou bien de ses amis?
Alors, je dirais que tout dépend de la famille que l'on a autour de soi. Chez certaines mamans, ce sera vraiment un soutien, un support que d'avoir sa famille, c'est les grands-parents, par exemple, qui vont aider la maman, les parents à s'occuper de bébé. Dans d'autres cas, ça se passe pas tout aussi bien, parce que dans certains cas, ça peut être une source, si c'est une source de conflit supplémentaire, ou un exemple de conflit qu'il peut y avoir entre des grands-parents et des parents, c'est une manière différente de s'occuper de bébé. Donc si la maman a chez elle une belle-mère qui va lui dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu devrais faire autrement, mais comment tu t'y prends, ce sera plutôt une source de stress supplémentaire pour elle, d'auquel cas ça ne sera pas aidant, ça ne sera pas un soutien, ou bien au contraire, c'est une période où déjà la jeune maman peut avoir du mal à reprendre confiance en elle. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux éviter de solliciter quelqu'un dans l'entourage qui risque d'avoir une attitude un petit peu dévalorisante ou un peu stressante pour la jeune maman. Mais dans tous les autres cas, dans la mesure où c'est aidant, dans la mesure où c'est bienveillant et que ça soutient la parentalité, que ce soit du côté de la maman ou du papa, c'est plutôt une bonne chose.
Le burning out maternel n'est pas un terme utilisé fréquemment, mais on le retrouve depuis combien d'années maintenant, ce burning out maternel?
Alors, ça fait quelques années qu'on l'applique au milieu familial. On reconnaît de plus en plus que cet état d'épuisement tel qui entraîne des changements dans le comportement de la mère, finalement est assez répandu. Par contre, le terme, il est depuis longtemps utilisé dans le milieu professionnel. C'est un état aussi d'épuisement, mais lié au contexte professionnel, aux sources de stress importants. Et on va dire que pour la médecine du travail, par exemple, ou ce qu'on appelle donc les risques psychosociaux, il a été depuis pas mal d'années maintenant déjà identifié, connu. On sait maintenant comment prévenir le burn-out dans le milieu professionnel. C'est particulier d'ailleurs au milieu professionnel, puisque les moyens, les ressources ne sont pas les mêmes. Quant au milieu familial, alors c'est plus délicat, c'est plus difficile, parce que justement, les mamans sont souvent isolées chez elles, qu'elles ne vont pas forcément avoir la possibilité ou l'envie de demander de l'aide ou d'avoir un soutien social. Donc, c'est plus difficile de les atteindre. C'est pour ça que c'est important de prévenir, de les préparer en tant que jeune maman à faire face à cette éventuelle descente vers l'épuisement maternel.
Alors, une maman nous envoie un SMS. C'est la deuxième grossesse dont je fais face actuellement. Durant sa première grossesse, elle a déjà eu un burning out maternel. Est-ce qu'elle doit avoir peur, après justement sa deuxième grossesse, de retomber justement dans ce burning out?
Alors,
ou peur, bien peut-on éviter justement pour retomber, pour rechuter justement.
Donc je dirais que ça ne doit pas devenir une source de stress supplémentaire en se disant puisque j'en ai vécu un une fois, je risque d'en revivre un une autre fois. C'est vrai que ça peut être angoissant et de s'imaginer revivre une situation qui est, comme je l'ai dit, une véritable souffrance pour les mères qui connaissent le burn-out. Mais on peut le voir sur un autre point, c'est que quand on l'a traversé, qu'on a pu prendre du recul. Je ne sais pas si c'est le cas de cette maman, mais déjà si elle en parle et qu'elle a pu mettre des mots, identifier la cause de sa souffrance, c'est qu'elle s'est peut-être fait aider ou en tout cas qu'elle s'est documentée. Ça veut dire qu'elle a pris du recul. Donc c'est une maman qui saura sans doute mieux se préparer à une deuxième grossesse et qu'elle pourra, avant que la situation ne devienne trop compliquée, trop difficile, prendre des mesures pour éviter justement le burn-out. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut échapper à ce burn-out dans la mesure, et c'est toujours mieux de le faire quand on intervient donc le plus tôt possible, dès que les premiers comportements changeants apparaissent, dès que la fatigue se fait véritablement sentir ou dès que l'entourage nous alerte sur des changements qu'ils ont observés. Donc je dirais, ne vous angoissez pas de cette situation. Au contraire, dites-vous que c'est une vous avez déjà eu une expérience qui doit pouvoir vous aider à mieux être préparé à vivre donc cette nouvelle grossesse et cette nouvelle période après la naissance.
Que peut faire l'entourage justement pour aider la maman à éviter de tomber justement dans un burn-out maternel?
Première chose, l'entourage surtout ne doit pas faire l'autruche, j'ai envie de dire. Ne doit pas faire comme s'il n'avait rien remarqué, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours délicat de dire à quelqu'un qui, c'est un petit peu comme dans les moments où on ne se sent pas bien, on se sent fragilisé, on aura plus de mal à entendre les remarques qui nous sont faites. Donc c'est vrai que l'entourage doit être délicat à ce moment-là pour pouvoir exprimer ce qui a été observé sans brusquer, sans blesser la personne, sans blesser la maman, mais en même temps c'est important qu'il le fasse, hein, en lui disant voilà, je sais tout ce que tu as à vivre en ce moment, je te connais et je remarque que quelque chose ne va pas. Peut-être que je peux t'aider à faire face à quelque chose, peut-être qu'on peut en discuter si tu es d'accord, ou on peut chercher des moyens de trouver des solutions pour que ça aille mieux, mais de le dire. Donc ça, c'est la première chose que l'entourage peut faire, alerter et exprimer ce qui a été observé comme changement. Et puis deuxième chose, l'entourage évidemment a un rôle très important à jouer pour la maman, la jeune maman. C'est un rôle de soutien social. On est dans une période, et dans toutes les périodes délicates de la vie en général, un des supports qui aide vraiment à faire face et à tenir bon, c'est le fait d'avoir un soutien émotionnel et social, c'est-à-dire un entourage qui soit présent par son soutien, ses encouragements, son affection, et va vraiment être une aide pour la maman. Donc l'entourage peut vraiment jouer un rôle où l'entourage peut compatir, peut apporter aussi son aide pratique, hein, dans l'organisation, proposer son aide pour aider la maman dans les différentes tâches qu'elle a à faire dans la journée. Donc le rôle de soutien est primordial par l'entourage.
Ce qu'on remarque ici, c'est surtout oser demander de l'aide et puis rompre l'isolement. Donc c'est important dans ce cas de figure.
Oui, rompre l'isolement, même si la maman peut se trouver dans cette spirale, tenter de ne plus tellement sortir parce qu'elle justement elle est tellement submergée par ce qu'elle a à faire à la maison, tellement fatiguée qu'elle ne se sent pas non plus l'envie. Donc l'entourage peut un petit peu en pousser la maman à sortir, pousser la maman à lâcher un petit peu, peut-être à l'encourager à dire écoute, pour cette journée-là, tu confies bébé à une nounou, tu confies bébé à quelqu'un de la famille, et puis on va prendre du temps pour toi, on va sortir un petit peu de la maison. Tout ça, ça peut être, c'est important, oui.
Une autre question, est-ce vraiment important de partager ce sentiment d'isolement avec son entourage?
Alors, si c'est du côté de la maman qui vit ce sentiment d'isolement, c'est important, effectivement, d'arriver à le dire, parce que, encore une fois, à ce moment-là, justement, le soutien social est très important. Donc, si on n'exprime pas ce sentiment d'isolement qu'on peut ressentir quand on est seul à la maison, l'entourage peut ne pas voir que la situation est en train de se dégrader. Donc, c'est important de faire, par exemple, dire à son conjoint, là, depuis, ça fait quelques semaines que je suis à la maison, là, je me sens vraiment seule, j'aurais besoin de voir du monde, peut-être de sortir un peu, peut-être de m'occuper un petit peu de moi, de revoir mes collègues de travail, d'aller voir un petit peu ma famille et de recréer du lien en dehors du rôle maternel qui est inévitable pendant les premiers mois de la vie, mais qui souvent est tellement prédominant qu'il peut devenir envahissant. Donc le sentiment d'isolement, oui, il faut l'exprimer et tâcher justement de trouver des moyens de sortir de ce sentiment d'isolement.
Alors, une autre question intéressante, si je ne m'entends pas avec ma famille et mes amis, avec qui dois-je me tourner? Donc, vers qui dois-je me tourner? Est-ce qu'il y a des professionnels qui sont...
Alors, il y a des professionnels, il y a les amis, des personnes qui sont bienveillantes, qui peuvent aider. Et puis, effectivement, il y a des professionnels qui sont là pour justement apporter un regard neutre, sans jugement, et discret sur une situation. Donc quelquefois, l'aide et le soutien d'un professionnel peut vraiment aider à passer cette transition et sortir d'une difficulté de burn-out. Oui, un psychologue, par exemple, peut apporter cet accompagnement ou ce soutien ponctuel qui va être comme une aide à traverser une transition, à vivre une transition. Et puis avec des conseils pratiques pour justement éviter que la spirale dont on a parlé, la spirale infernale, continue.
Alors, Nathalie Collin-Fagotin, notre psychologue de la famille, rendez-vous tous les lundis matin entre 10h30 et 11h. On va rappeler des événements à venir justement qui arrivent cette semaine. Donc cette semaine, une semaine assez particulière consacrée donc aux femmes, à l'allaitement maternel et autres.
Oui, il y a une journée donc à Pirel au centre de la mère et l'enfant mercredi sur l'allaitement maternel. Donc Family Psy y sera pour faire un atelier notamment et tenir un stand. Donc l'atelier sur le thème de reprendre le travail après son congé maternité. C'est pas toujours facile, ça peut se préparer. Donc il y aura un petit atelier à 15h30 au centre de la mère et de l'enfant. Et puis je rappelle que toutes les semaines, il y a des publications nouvelles sur la page Facebook de Family Psy et bientôt la sortie du site internet très prochainement. Donc n'hésitez pas à venir voir sur la page Facebook en attendant. On reparlera des autres événements la semaine prochaine.
Alors on va rappeler quelques conseils à retenir et puis à donner concernant le burn-out maternel.
Alors,
Nathalie,
pour être bref, premièrement, s'écouter, repérer les premiers signes. Deuxièmement, penser à se reposer physiquement, mais aussi moralement. Troisièmement, sortir de l'isolement, ne restez pas seul. Quatrièmement, mettre des priorités, un peu d'organisation, et puis refaire un petit peu le point sur les priorités de sa vie. Cinquième chose, faites la chasse aux sources de distraction inutiles, qui sont des sollicitations qui s'ajoutent à toutes les autres. Et puis, dernier conseil, déléguer. Il y a deux parents, donc la coparentalité, ça permet justement d'être ensemble parents pour ce qui est des tâches de la vie quotidienne.
Merci beaucoup Nathalie Collin-Fagotin. Je rappelle que vous êtes psychologue de la famille, Family Psy également, qu'on peut donc consulter la page Facebook. Et puis on vous retrouvera mercredi au centre de la mère et de l'enfant, où vous allez être à la tête de cet atelier et préparer la reprise du travail après une grossesse. Merci beaucoup. Sur Polynésie Première, il est 10h passé de 53 minutes.